Tressaille de joie, ton Dieu, triomphe, triomphe, tressaille de joie, ton Dieu.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, repas fraternel et ensuite études d'hommes et de femmes. Donc, pareil, vous êtes invités à rester et à prendre du temps pour partager, s'encourager et s'exhorter dans notre foi. Donc, voilà pour le programme de la journée. Cette semaine, il y aura donc réunion de prière le vendredi maintenant, hein, le vendredi à 20h. Donc, j'étais encouragé vendredi dernier là avec le nombre de personnes qui étaient. Donc, continuons à venir et à prier et à intercéder les uns pour les autres. Notre Église a vraiment besoin de ça en ce moment. On a vraiment besoin de prier les uns pour les autres. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens en ce moment. Il faut vraiment prier pour différentes personnes. Chacun, on est tous à peu près touchés par certaines épreuves ou la fatigue aussi qui est là. Donc, prions les uns pour les autres. Voilà. Et autre chose, pour Hosanna Parks, les enfants qui sont pas, les jeunes qui ne sont pas encore inscrits, ce serait bien que vous me donniez vos inscriptions aujourd'hui ou plus tard dans la semaine. Parce que j'ai déjà au moins, il y a 16 places et j'en ai déjà au moins 5, 6 qui viennent de d'autres églises, de Paris, de Angers et d'autres qui sont inscrits. Donc voilà, ce serait bien que les jeunes qui veulent aller à Hosanna Parks puissent s'inscrire aujourd'hui. Et c'est 50€ pour ceux de notre assemblée. Voilà. Juste une autre chose, la semaine prochaine on va continuer Colossiens et je vais vous demander de faire quelque chose. Le Seigneur aime bien les objectifs et moi j'aime bien donner des objectifs aussi aux gens. Et je pense qu'il faut fonctionner des fois avec des objectifs, et des objectifs bibliques c'est encore mieux. Donc je vais vous demander de faire quelque chose pour la semaine prochaine. Après vous le faites ou vous le faites pas, c'est votre conscience, c'est plus la mienne. Mais moi je vous le demande de lire Colossiens 3 deux fois chaque journée à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain matin avant d'arriver au culte. On a déjà vu deux messages en Colossiens 3, versets 1 à 4 et 5 à 9. Et la semaine prochaine je continuerai à prêcher sur le verset 9 et la suite. Mais je vous encourage, et c'est pas votre culte personnel, hein. C'est pas votre temps avec le Seigneur, c'est un plus, hein. Hein, dites pas, j'ai lu Colossiens 3 deux fois, ça y est, j'ai fini. Non, c'est un plus, hein. Donc je vous encourage, voilà, tout simplement, à lire Colossiens, pour que quand vous allez arriver, vous savez de quoi on va parler, et de quoi on a parlé. Et ceux qui n'étaient pas là, vont pouvoir mieux comprendre aussi le contexte et le passage. Donc, que ceux qui veulent s'engager, s'engagent à lire Colossiens 3 deux fois par jour. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Un petit objectif simple. Voilà, je laisse la place à mon ami.
Henri, il faut appuyer sur quelque chose ou... Ok. Ah, tu m'as même enregistré.
Voilà. Donc, quand Florent m'a dit que j'allais prêcher deux fois dans une matinée, j'ai dit, bon, il est courageux deux fois que je vous présente les choses, mais quand même, je suis très content d'être ici. Avant que je prends le sujet qui va être la joie et carrément la souffrance, mais vraiment, on va viser justement pas simplement cette idée de la volonté de Dieu, mais carrément la souffrance. Il y a un autre sujet que j'aimerais toucher, mais il y a deux raisons que je ne fais pas. Un, je n'ai pas vraiment le temps. Et deux, très sincèrement, je n'ai pas encore la victoire. Donc je ne pense pas que c'est tout à fait juste à présenter cette idée sans que j'ai un peu plus d'avance dans ma vie. Mais c'est tout simplement la joie et l'énervement. Je vous montre ce que je veux dire par ça. Et bon, si après vous avez quelques idées, hein, moi je suis tout à fait ouvert de vous écouter pendant qu'on mange. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'histoire. Et justement, à la fin de ce message, je vais vous parler juste un tout petit peu de l'histoire de La Rochelle. Et donc, le fait que j'aime l'histoire, ça veut dire que je regarde pas mal de documentaires. Et même j'achète des DVD pour voir des films ou d'autres choses qui parlent de l'histoire. Mais c'est complètement fou ce qui m'arrive. Quelquefois, je regarde quelque chose chez moi, je suis en train de regarder un DVD. Donc c'est un DVD, hein. Ce n'est pas en direct, ce n'est pas quelque chose qui, si je rate, ça ne sera jamais sur la télé. Donc c'est un DVD. Je regarde. Bon, il parle de... pas juste en ce moment, depuis des années, je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup, je regarde beaucoup sur la Normandie, le jour J, tout ce qui s'est passé là. La bataille de la Normandie, ça m'intéresse beaucoup. Donc je suis en train de regarder quelque chose et j'ai mon enfant qui arrive à côté de moi qui a vraiment besoin de me parler. Papa, je te peux parler? Et là, je n'entends rien parce que je vois les balles qui volent, et ben voilà les bateaux qui débarquent. Oh, je suis intense. Et l'enfant, et papa? Mais rien. Hein. Bon, les hommes, parfois, on peut être comme ça. Parfois. Et ben, moi, je regarde ça, et papa, on commence à m'attoucher. Papa, papa. Et qu'est-ce que je dis? Parce que, bien sûr, j'ai la joie du Seigneur. Oui, chérie, qu'est-ce que tu veux? Moi, je rêve, hein. Mais quoi? Hein? J'ai un DVD, là. C'est DVD. Peut-être le pause, ça ne marche pas. Et pourquoi on rigole? Parce que ce petit... Mais quoi? C'est tellement facile. Ça arrive jamais dans votre couple? Qu'est-ce que tu veux? Au lieu de dire, oui, chérie, j'ai le temps pour toi. Je suis vraiment, vraiment convaincu... La base de ce problème, c'est justement une manque de joie, une manque de la satisfaction de mon âme, que parfois, je peux tourner à mon enfant, à ma femme, à quelqu'un d'autre, où j'arrête ce qui m'intéresse. Et je peux dire oui. Parce que quand ça se passe, c'est simplement le fait qu'on suit Philippiens chapitre 2. Au lieu de chercher mes propres intérêts, je cherche les intérêts de l'autre. Mais le problème est que je ne cherche pas les intérêts de l'autre parce que je n'ai pas la mentalité, l'attitude de Jésus dans ma tête. Parce que ce qui se passe, c'est que Jésus, parfois, il n'est pas tout pour moi. Parfois, 80% Jésus, génial, déjà c'est 80% et 20% DVD. Ou 20% argent, ou tout ce que vous voulez. Donc, voilà mon problème. Je n'ai plus rien à dire. Parce que là, je lutte avec ça. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Et ben voilà, quand même, ça c'est, je vous donne ça. Bon, ça c'est gratuit. Hein. Ça c'est juste pour vous, hein, de méditer, de penser un peu à cette idée-là. Mais la joie, la satisfaction de votre âme, et tout ce qui n'est pas forcément souffrance, mais tout ce qui est un peu les choses qui embêtent, les choses qui les distractions de la vie. Donc voilà. Mais ce matin, en fait, là pour terminer justement ce sujet de la joie, on va voir Colossiens chapitre 1. On va prendre le temps pour examiner cette idée de la souffrance et la joie. Quelque chose qui Paul il présente ici dans Philippiens chapitre 1, verset 24 jusqu'au verset 29. Et pendant que vous cherchez Colossiens chapitre 1, verset 24, moi je vais prendre... Colossiens chapitre 1, verset 24. Moi je vais prendre juste quelques secondes pour demander au Seigneur que ce moment soit béni. Seigneur, encore on te remercie que tu nous donnes ce privilège... Ce moment, Père, de voir ta parole. On te remercie, Père, pour la liberté que nous avons ici en France. Et on prie aujourd'hui, Père, qu'on soit transformé par ta parole. On prie, Père, que nos pensées soient illuminées par le Saint-Esprit. Et que, Père, aujourd'hui, on commence à mieux comprendre ta joie pendant les moments de souffrance. Amen. Donc ici, en fait, on a un passage qui je crois, hein, est assez connu, mais Colossiens 1, 24, 29. Et moi, je vais faire quelque chose un peu différent. Je vais commencer avec le verset 29. Et on va voir verset 29, 28. Et parce que là, je pense qu'ici, Paul, il présente quelque chose qui est vraiment essentiel. Donc, on commence avec Colossiens chapitre 1, verset 29. Et Paul, là, il dit, « C'est à quoi je travaille ?» en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et ici, on a tout d'abord Paul qui présente cette idée de la manière qu'il va travailler. Et après, on va voir quel est le travail de Paul. Mais dans le verset 29, il dit, bon, voilà comment je vais travailler. Et il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Donc c'est le Seigneur qui me donne la force, mais moi, mon travail, c'est un combat. Et là, hier soir, on a vu que Jésus, quand il priait, il était dans l'agonie, dans Luc chapitre 22. Ici, le mot combattant, la racine, c'est le même mot, c'est le mot agonia. Mais ici, on a le mot agonizimai. Et c'est l'idée d'entrer dans la lutte, c'est l'idée d'être vraiment au combat. Et Paul dit, quand moi je fais mon travail, je suis apôtre, moi je fais un combat. J'entre carrément dans une lutte. Ce que je fais, c'est vraiment en luttant pour le Seigneur. Et c'est pas simplement ça, mais c'est par sa force, ou littéralement son énergie que Dieu me donne, qu'il agit puissamment en moi, et c'est comme ça que je vais faire le travail. Donc déjà, quand on fait pas par pas dans ces versets-là, il y a déjà les applications pour chacun de nous. Dieu vous appelle à faire quelque chose. On sait même dans Éphésiens chapitre 1 qu'il y a les bonnes œuvres préparées déjà en avance. Moi, je pense, et quand même c'est assez clair, en avance, c'est dans l'éternité passée. On ne sait même pas quand Dieu a déterminé. C'est lui qui a choisi, pas simplement notre salut, mais aussi les bonnes œuvres qui sont devant nous chaque jour. Donc, Dieu, déjà, il prépare un travail pour chacun. Il nous demande à faire ça comme un combat ou une lutte, mais par sa force qui travaille en nous. Donc, on a la manière que Paul il va travailler. Deux, on voit dans le verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et voilà, on voit ici le but du travail de Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement, on va annoncer quelque chose, et on va exhorter les hommes, et c'est tout simplement que chacun soit présenté à Dieu comme un homme parfait. Et là, il faut faire très, très attention. Dieu ne demande pas qu'on soit sans péché parfait. L'idée d'être parfait là, c'est d'être mature. D'être un adulte, un chrétien adulte. Et donc, le but du travail de l'apôtre Paul, là où il fait combat, c'est justement la sanctification ou la croissance spirituelle de chaque chrétien. Donc, il va faire ce travail-là. Ensuite, on voit dans le verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc là, on voit le message de Paul. Donc, il a un travail, il va faire un combat. Le but de son travail, c'est tout simplement la croissance spirituelle, mais le message qu'il donne, c'est tout simplement quelque chose qui était un mystère avant. Ça veut dire un mystère dans ce sens, c'est quelque chose qui était caché, et maintenant c'est complètement dévoilé, ici, dans le Nouveau Testament. Et c'est quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous êtes sauvés, vous avez Jésus-Christ dans votre vie, maintenant vous pouvez avancer, vous pouvez devenir un homme, une femme mature en Christ. Et là, Paul, il va travailler beaucoup avec ça. Donc on voit déjà trois choses où Paul, il avance dans son ministère. Ensuite, dans le verset 25-26, excuse-moi. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Et ici, donc, surtout dans le verset 25, Paul dit, j'ai été fait ministre, selon la charge ou l'appel. Paul était appelé carrément par Dieu pour faire quoi? Pour faire le travail d'annoncer l'évangile, mais aussi faire croître les chrétiens. Et c'est là qu'il travaille beaucoup. On peut facilement dire que, un, ça c'est déjà un travail de chacun qui est appelé dans le ministère de pasteur ou diacre ou ceux ou celles qui enseignent les enfants dans l'école du dimanche. Mais c'est aussi quand même de quelque part, le travail de chaque chrétien. On est appelé d'encourager les uns les autres. On est appelé de ceux qui sont matures dans la foi, d'aider ceux qui sont faibles dans la foi. Et ici, bon, Paul, il a eu son ministère. Vraiment exceptionnel, il était apôtre. Mais quand même, Dieu dit, j'ai déjà préparé les bonnes œuvres en avance pour chacun. Et donc, de quelque part, on peut se voir dans ce passage. On est tous appelés à parler de Jésus, de témoigner. On est tous appelés d'encourager les uns les autres. Si vous êtes papa, voilà le travail dans votre foyer. Déjà, un, selon Éphésiens chapitre 5, c'est pour aider. Le verset ne parle pas exactement comme je vais vous dire. Donc, bon, c'est la traduction de Mark Nelson qui... Il faut se méfier beaucoup. Hein. Là, le docteur Seconde, il sait beaucoup mieux que moi. Mais quand même, ça dit quelque part, quel est le travail d'un mari? De préparer sa femme pour qu'elle puisse aller au ciel. Ce n'est pas qu'elle va sauver sa femme. Mais ça dit que Jésus, il est toujours en train de purifier, d'aider à avancer l'Église. Et ça dit, Marie, vous pareil. Donc, il faut qu'on aide nos femmes d'abord, et ensuite nos enfants, dans la sanctification, dans leur marche quotidienne pour le Seigneur, pour les mamans. C'est aussi pareil avec les enfants. Mais entre chacun de nous, on a un travail dans l'Église à aider les uns les autres pour avancer dans la foi. Donc on a cette même chose-là. Et ce qui est très très compliqué, c'est comment Paul il va accomplir ce travail. Quel est vraiment le moteur derrière cette chose-là? Verset 24. Qui franchement est très très difficile, soit un à comprendre et deux à mettre en pratique, mais qu'est-ce qu'il dit? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Il est très facile à ce moment-là, il dit, oh, il est un peu fou là. Hein? Je me réjouis dans mes souffrances, ça me plaît quand ça fait mal. En gros, c'est ça qu'il fait. Je trouve la satisfaction de mon âme quand je suis dans la souffrance. Et tout ce qui est logique en moi dit, mais non. Je trouve la satisfaction de mon âme quand je mets ma main dans le feu. Non, je trouve la satisfaction quand je retire ma main. Ah, ben là, ça fait mal, mais maintenant, ouf. Et donc, il dit quelque chose qui, de quelque part, on peut dire, oh, non, c'est pas trop logique. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre ce verset. Mais il dit quoi? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma foi pour son cœur qui est l'Église. Notre cher Jean Calvin, il a fait des commentaires de presque chaque livre de la Bible, ou même peut-être de toute la Bible, j'oublie. Mais quand Jean Calvin est arrivé à ce verset-là, il a pris deux, trois petites phrases pour expliquer un peu. Et ensuite, il a mis deux, trois pages pourquoi il n'y a rien qui manque dans la souffrance de Jésus. Et je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais quand même, moi j'ai cherché et j'ai cherché et j'ai cherché pour ce verset-là. Et il faut traduire ce verset comme on voit là. Et ce qui manque dans aux souffrances de Christ, je l'achève en ma foi. Excusez-moi, je l'achève en ma chair. Soit que c'est très très grave et Paul il s'est trompé. Et là, on a juste un petit verset qu'il faut enlever de la Bible. Ou, et ce que je pense, il faut comprendre vraiment ce qu'il veut dire là. Donc c'est là que je vais me baser. Parce qu'on voit Paul, il a un travail. Il a un but, il sait ce qu'il veut faire. Mais là, il dit, et pour achever... Pour accomplir ce travail-là, il me faut la souffrance pour ajouter ce qu'il manque dans la souffrance de Jésus. C'est un peu bizarre, mais moi j'espère après vous allez comprendre ce que Paul veut dire ici dans ce passage. D'abord, pour moi, je pense vraiment la clé, c'est pour comprendre d'abord ce mot souffrance. Ici, le mot souffrance, c'est un mot qui parle uniquement de la souffrance physique. Et ce n'est jamais, jamais un mot qui est lié avec l'œuvre rédemptrice de Jésus. Ce n'est jamais un mot qui parle du sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés. C'est un mot qui parle simplement de quelque chose qui fait mal. C'est au cœur de ce mot, c'est l'idée d'avoir la pression. Quand ça fait mal, quand il y a un peu de pression autour de nous, ça peut être physique, ça peut être... Bon, ce que je pense, là, quand Paul dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances », Paul ne parlait pas simplement de ses souffrances physiques. Il parlait de tout ce qui est venu. Les insultes, les mots qui blessaient, et aussi ensuite les coups et les frappes et tout ça. Donc, ici, on a quand même un mot qui ne parle pas de le sacrifice de Jésus. On a un mot qui parle simplement de la souffrance physique. Donc, ensuite, il dit... Et ce qui manque, Et en fait, cette idée, c'est simplement, manque veut dire insuffisance, ce qui manquait, et c'est surtout en référence le fait d'être pauvre, d'avoir besoin de quelque chose, de la destitution, et moi je vais vous montrer dans quelques instants un verset qui touche exactement cette idée-là. Donc c'est l'idée simplement que c'est quelque chose qui n'est pas encore accompli. Donc il manque, mais littéralement, on veut 10 paires et on a 5. C'est un peu cette idée-là. Et ensuite, il dit « je l'achève ». Et c'est simplement, justement, cette idée de prendre jusqu'au bout, d'avoir quelque chose qui est complètement plein. On voit ces mots-là. On peut comprendre, on dit « ok, là, voilà la définition de ce mot-là, ce mot veut dire ceci ». Mais moi, je pense ensuite, c'est bien vraiment de voir un exemple direct de ces mêmes mots dans un passage de la Bible. Donc là, je vous invite à trouver dans vos Bibles Philippiens, Philippiens chapitre 2. Donc voilà, c'est juste quelques pages en arrière. Philippiens chapitre 2. Et ici, nous allons voir les mêmes mots employés dans ce passage. Et donc, on commence Philippiens chapitre 2, verset 25. Qui dit « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. » Donc, je vais vous décrire un peu cette histoire. Il y avait cette église à Philippe qui a collecté des offrandes pour Paul. Paul, il avait besoin de l'argent, et cette église a dit « Ben nous, hein, on peut le faire ». On a un peu de ressources, on va prendre des offrandes pour toi et on va te donner ça. Et donc Paul dit dans ce passage-là, les offrandes étaient tous données. Donc il y avait un endroit où il y avait l'argent, bon, dans un sac, dans je ne sais pas quoi, hein, mais il y avait bon, voilà, l'argent qui est là. Et là, où l'argent était, c'était point A. Il y avait un seul problème. Paul, il était à point B. Donc, j'ai aucune idée si jamais dans votre vie vous avez eu de l'argent à point A et vous étiez à point B, mais c'est énervant. Hein. Quand on voit, on sait. Excusez-moi, monsieur le garagiste, je suis en vacances et c'est sûr que j'ai l'argent chez moi, mais je suis chez vous. Est-ce que je peux vous envoyer le chèque, s'il vous plaît? Ça ne marche pas chaque fois. Hein. Donc, on voit le problème. Paul, il est ici à point A. Il veut manger. Il veut payer sa loyer. Bon, il veut vivre. Et l'argent, c'est à point B. Qu'est-ce qu'il a fait? Et j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite pour amener l'argent à point B jusqu'à point A. Et donc, regardez ensuite. Bon, il parle de comment Épaphrodite est tombé presque malade. Presque mort, il était malade. Et regardez le verset 30. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Son ami, Épaphrodite, il a risqué sa vie pour amener l'argent de point B jusqu'à point A. Et voilà. Ayant exposé sa vie afin de suppléer. Et là, quand il dit suppléer, ça c'est tout à fait le même mot en grec que Paul il a dans Colossiens chapitre 1, achevé. Donc c'est l'idée d'amener quelque chose de point B de point A jusqu'à B ou BA, ça dépend là où vous êtes. Mais c'est l'idée d'amener quelque chose jusqu'à sa fin. Donc, et ensuite il dit, à votre absence dans le service que vous me rendiez. Et donc quand il dit, à votre absence, les gens de l'église, les Philippiens, ils n'avaient pas la possibilité eux-mêmes d'amener l'argent de point B jusqu'à point A, jusqu'à l'apôtre Paul. Donc, dans votre absence, dans votre manque, c'est tout à fait le même mot qu'on t'a dit, et ce qui manque dans les souffrances de Jésus, je l'achève ou j'amène jusqu'au bout. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un exemple très facile. Paul, il avait besoin de son argent était là, donc il a envoyé quelqu'un, son ami Épaphrodite. Qui, Épaphrodite, dans sa souffrance, il est tombé malade, jusqu'au moment où il faillit mourir. Mais pourquoi il a fait ça? Pour amener l'argent de l'apôtre Paul de point B jusqu'au point A où Paul, il a dit, aval, merci, maintenant j'ai mon argent, c'est complet. ici maintenant dans Colossiens chapitre 1. Paul dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. À ce qui manque à la souffrance de Christ, ou aux souffrances de Christ, physique. Jésus a souffert. Mes chers amis, et il y a d'autres versets qui disent la même chose. Jésus, simplement, là, avec sa souffrance, il a lancé le modèle. Est-ce que vous savez, dans 1 Pierre, vous êtes appelés à la souffrance comme Jésus a aussi souffert? Il nous a donné l'exemple, et Jésus, il a ajouté sa part de souffrance pour le message. Quel est le message? C'est ce que Paul a dit là. Je vous annonce Jésus-Christ. Et ce que Dieu nous demande maintenant, c'est d'amener le message de Jésus-Christ de point A jusqu'au point B par la souffrance. Et bien, voilà, pourquoi vous avez la souffrance dans votre vie? Selon ce passage-là, c'est que ça puisse vous aider à amener le message de l'Évangile à point A jusqu'au point B. Et ce qui est merveilleux de la vie chrétienne, c'est que vous n'êtes pas seul. Depuis la résurrection de Jésus, ça fait maintenant des millions et des millions de témoins, de chrétiens, de fidèles, qui avec vous, vous êtes tous en train d'amener le message de Jésus de point A jusqu'au point B, de parler, de témoigner, de donner ce message, mais par votre souffrance. Ça veut dire, avec le bras cassé, il faut aller où? Au McDo? Bon, c'est la seule référence américaine, hein, ça, le McDo. Non, à l'hôpital. On va à l'hôpital. Et là, il y a qui travaille à l'hôpital? Un médecin, des infirmières, des médecins. Et quand on va à l'hôpital avec le bras cassé, qu'est-ce qu'on dit? Ça m'énerve. Maintenant, je vais rater 2 semaines de travail. Je ne sais pas si on est énervé quand on rate le travail. Bon, ça dépend chacun. Mais on n'est pas content. Hein? Sauf, est-ce possible qu'un chrétien peut aller à l'hôpital avec la joie, la satisfaction dans son âme que son bras est cassé? Mais on peut. Ça se peut. Hein? Mais par la foi en Jésus, qu'il me donne la possibilité d'amener son message à l'hôpital. Et tout d'un coup, il y a une infirmière qui dit: mais franchement, tu es un peu bizarre. Oh, je ne sais pas si on se tutoie dans l'hôpital. Donc, excusez-moi, vous êtes très bizarre. Ah bon? Pourquoi? Mais ça fait maintenant, depuis 1er janvier, 5 fois qu'on a quelqu'un qui a le bras cassé. Et vous êtes le seul qui ne se plaint pas, qui ne crie pas, qui n'insulte pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai une joie. Ah bon? Ou qu'est-ce que c'est ça? Et on commence d'amener le message avec le bras cassé. Et il y a autant de souffrances dans la vie, il y a autant d'exemples. Comment on peut prendre la souffrance dans la vie, et on peut arriver avec Paul, quand il dit, je me réjouis. Et s'il vous plaît, n'oubliez jamais qu'est-ce que c'est la joie. C'est la satisfaction et le contentement de l'âme. Ce n'est pas le fait d'être heureux. Ah, j'ai cassé mon bras. Oh, c'était génial. Vous parlez comme ça, vous avez un plus gros problème ici que le bras. Non, mais c'est avec les larmes. Oh, j'ai cassé mon bras, mais j'ai l'assurance que Jésus est ma satisfaction. Et c'est lui qui a permis que ce bras soit cassé. Et ben voilà. À ce moment-là, on peut dire avec l'apôtre Paul, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Et ce qui manque, la souffrance qui n'est pas déjà donnée aux autres et à moi-même, quand ça m'arrive, j'ajoute ma souffrance sur la souffrance de Jésus, parce que Jésus, par sa souffrance, il a lancé le message, il a donné son salut, et maintenant, moi, j'ai le privilège de prendre son salut de point A jusqu'au point B. Mes chers amis, très, très, très souvent, par la souffrance, par les choses qui font mal, par les choses qui ne sont pas du tout agréables, par les choses qui sont très dérangeantes. Mais Paul, il dit, voilà, je sais où je suis appelé, je sais mon travail, je sais ce qu'il me faut faire. Et là, je vais prendre ce message de point A à point B avec la souffrance, je sais. Mais, par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, je vais prendre ma satisfaction en sachant que moi, je commence d'achever, je commence d'ajouter, je commence à accomplir la souffrance que Jésus a commencée pour amener son message jusqu'au bout. Comme je vous ai dit, et même plus que moi, comme Jacques a parlé, c'est le fait que, bon, au bout de quelques années à La Rochelle, j'ai commencé vraiment de m'intéresser avec l'histoire de La Rochelle et tout ce qui s'est passé dans cette ville, surtout au niveau de la réforme. Et donc, moi, j'aimerais vous montrer quand même un exemple que moi, je considère un exemple parfait de ce verset. Mais pour vous donner juste quelques points de contexte. On dit souvent que la réforme a commencé en Allemagne avec Martin Luther. C'est faux. Mais c'est complètement faux. Je ne suis pas anti-allemand, mais je suis quand même plutôt pro-français. Donc, c'est un Français qui a commencé la réforme. Et donc, voilà, il faut être fort avec ça. Et bien voilà, excusez-moi, mais moi je dis « nous les Français hein. ». Bon, même si je n'ai pas encore le passeport qui dit ça, mais j'ai un cœur qui veut dire ça. Donc, mais moi je dis « nous les Français, on a commencé la réforme ». Et d'ailleurs, c'est vrai, hein. Il y avait un homme à Paris, un simple enseignant dans une école, qui s'appelait Jacques Lefebvre d'Étaples. 1514, 15 ou 16, j'oublie toujours, hein. j'ai un petit problème. Mais bon, c'était avant quand même Martin Luther. Il a écrit un commentaire sur le livre de Romains. Et là, surtout, il a dit une chose. La foi par la justification seule. Et devinez qui a lu ce commentaire? Martin Luther. Et voilà, donc Martin Luther était au moins un peu influencé par cet homme français qui donnait l'idée, on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé uniquement par la foi seule en Jésus-Christ. Et donc, cet homme-là, en fait, il était en concert avec un évêque qui s'appelait Guillaume Brissonnet. Et Brissonnet, il était d'abord l'évêque de l'église à Paris, de l'église Saint-Germain-des-Prés. Et donc, on peut y aller aujourd'hui, il y a même des petits tableaux qui parlent de Jacques Lefebvre d'Étaples et Guillaume Brissonnet. Mais ensuite, Brissonnet, il était envoyé dans la ville de Meaux. Et dans la région de Meaux, il est devenu l'évêque de cette région. Et à ce moment-là, il a constaté que ça n'allait pas du tout avec les autres prêtres qui étaient pas simplement infidèles à l'Église, mais aussi simplement infidèles au commandement de Dieu. Il y avait beaucoup, beaucoup de péchés qui se faisaient, même parmi les prêtres. Mais aussi, en même temps, il avait cette influence d'un homme, Jacques Lefebvre d'Étaples, qui voulait parler plutôt de le salut par la foi que le salut par les œuvres. Et donc, Guillaume Brissonnet, il a mis en place une étude biblique, de quelque part. Hein. Ça ne s'appelait pas une étude biblique, mais bon, voilà ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, il y avait un jeune homme de La Rochelle qui était là. Et ce jeune homme, il a assisté à ses études bibliques, un jeune homme qui s'appelait Guillaume Joubert. Et Guillaume Joubert, il a assisté à ses études bibliques, et un jour, bon, voilà, il était illuminé, il était appelé par le Seigneur, il a compris... C'est Jésus seul qui me sauve. Il faut que je confesse mes péchés. Il faut que j'accepte et que je croie en Jésus en tant sauveur et Seigneur. Et ce jeune homme, il a été radicalement transformé. Au point que, et il faut comprendre une chose de Guillaume Brissonnet. C'est un jeune Rochelais, mais en fait, son papa était un avocat du roi François Ier. Et donc, il a été envoyé à Paris pour faire ses études dans la Sorbonne. Et là, il faisait des études d'avocat, mais tout d'un coup, sa vie a été changée, transformée par Jésus. Donc, il avait beaucoup moins envie à faire ses études et beaucoup plus envie à prêcher dans la rue. Donc, bon, donc ça se faisait même à cette époque-là. Et il s'est levé un jour et je ne sais pas où, il a commencé à prêcher. Mais surtout, il disait, il ne faut plus prier la Vierge. Il ne faut plus croire la Vierge, il faut croire Jésus-Christ. Et avant la fin de la journée, ben voilà, il était en prison. Donc, ça s'est passé en 1726. C'était plutôt vers début de l'année parce que en mi-février 1526, on sait ce qui s'est passé. Il était amené devant l'église Notre-Dame. Il était demandé, est-ce que tu vas nier l'hérésie ou les mauvaises doctrines que tu enseignes? Non. Ensuite, il était amené sur la place de Maubert. Et en fait, si jamais vous allez à Paris, La place est toujours là. Et en face, il y a un commissariat de police avec un musée pour la police de Paris. Mais sur la place, j'oublie, c'était février, j'oublie la date, mais février 1526, Guillaume Joubert avait sa langue coupée de sa bouche. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, quand les gens donnaient leur vie ensuite, brûlaient vifs, ils chantaient, ils témoignaient. Quand les flammes consommaient le cœur, ils avaient la force de Dieu, la force du Saint-Esprit de prêcher en plein flamme. Et donc voilà, ils avaient coupé sa langue, ils ont coupé sa langue. Son cœur était attaché à un poteau. Voilà, ils ont mis le feu. Et Guillaume Joubert a donné sa vie pour le Seigneur Jésus à Paris en 1526. Mais Guillaume Joubert était connu à La Rochelle. Ce n'était pas n'importe qui, c'était le fils de l'avocat du roi. Et les gens à Paris, à La Rochelle, ils s'est mis à parler. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, c'est pas normal. Pourquoi il a donné sa vie ça? Comme ça, on ne comprend pas, mais c'est fou ce qu'il a fait. Ils ont fait quelques recherches, ils avaient découvert que là, à Paris, il y avait des études bibliques, et surtout, ils avaient découvert que quelqu'un avait traduit le livre de Romains en français. Et donc, ils avaient demandé le livre de Romains, et ça a été envoyé. Si jamais vous allez à La Rochelle, et franchement, je vous invite, c'est bien que je vous dise ces choses en ce moment, quand vous voulez, honnêtement, je suis là. Et comme je vous ai dit, il y a toujours de soleil, donc là, il n'y a aucun problème. Mais moi, je suis toujours prêt de vous amener dans ces endroits où ces choses s'est passées. Et dans le quartier de Saint-Sauveur à La Rochelle, dans les sous-sols des maisons, parce qu'à ce moment-là, il a fallu lire la Bible en cachette, ils ont fait des petites chapelles, justement pour, en soirée, très tôt le matin, avec les bougies, à lire le livre de Romains en français pour la première fois de leur vie. Et ça a commencé par quelques dizaines, ensuite, quelques centaines, mais les Rochelais sont devenus, tout petit à tout petit, les vrais chrétiens. À ce point, en 1548, à Angers, François Ier, il avait appelé... il faut comprendre, François Ier et les rois de France étaient la tête de l'Église catholique. Ils avaient ce pouvoir à ce moment-là. C'est eux qui ont nommé les évêques et les prêtres. Et donc, François Ier a dit, on a un problème à La Rochelle. Il y a des hérésies partout à La Rochelle, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, quelques années après ça, vers 1550, François Ier, il avait envoyé Claude d'Onglier, un homme de l'armée, un officier, était envoyé à La Rochelle, justement pour une seule chose, pour chasser ces chrétiens protestants, mais eux, ils appelaient les hérétiques. Il était envoyé là. Pendant 2 ans, il avait fait d'espionnage, il regardait qui est qui fait quoi. Et le début mai 1552, Claude d'Onglier, il avait arrêté, il avait mis en prison 3 pasteurs. Bon, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 40 ans, maintenant j'ai 43 ans, et à un moment donné, j'avais le nom de ces 3 pasteurs en tête, mais bon, je les ai oubliés, mais c'est 3 hommes, 3 pasteurs. Le 10 mai 1552, il y avait un procès, ces hommes étaient condamnés. Il était amené devant l'église Notre-Dame de la Rochelle. Là, le 10 mai 1552, ils avaient pris le premier pasteur. Encore, comme d'habitude, ils avaient coupé sa langue, attaché au poteau, le bois tout autour de lui, on met la flamme, brûlé vif. Deuxième pasteur, il était nettement plus gentil à ce moment-là, Claude d'Onglier. Ce pasteur était étranglé. Et ensuite, son cœur était brûlé. Troisième pasteur, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais lui, il était fouetté 100 fois et banni de la ville de La Rochelle. On ne sait pas ce qui s'est passé avec cet homme, mais on peut imaginer que son cœur, son dos était cassé. Et à ce moment-là, hors de la ville, sans nourriture, sans d'autres choses, à mon avis, sûrement, il était condamné à mort. Mais on ne sait pas. Et Claude d'Onglier, le 10 mai 1552, il avait fait son travail. Ben voilà, je fais ce que le roi me demande. Et il est allé à sa maison. Et sa maison est toujours à La Rochelle. On sait exactement là où il est habité. Il est allé chez lui. Plus tard, il a écrit dans un espace de journal quelque chose. Il a gardé ses pensées. Il avait dit, le 10 mai 1552, cette soirée-là, j'ai mis ma tête sur l'oreiller, j'ai fermé mes yeux et j'étais tourmenté. Je ne dormais pas. Parce que ce qui me tourmentait, c'était l'image, les trois visages de ces hommes en paix, avec la joie, avant que j'ai tué deux de ces hommes et que j'ai fouetté 100 fois l'autre. Il a dit, pendant une semaine, il n'a pas presque dormi, sauf ici, là, quelques minutes, une heure ici, une heure là, parce qu'il était tourmenté sans cesse par la joie et la paix qui étaient sur le visage de ces trois hommes-là. Au bout d'une semaine, il ne supportait plus ce tourment. Il était allé chercher encore un autre chrétien, un autre huguenot, si on veut, de La Rochelle, il a trouvé un homme. Cet homme a expliqué l'évangile de Jésus. Et Claude d'Anglier, là, il a accepté Jésus. Il est devenu chrétien. Et le dimanche après, vous savez ce qui s'est passé? Où se trouvait l'église de La Rochelle? Dans la maison de Claude d'Anglier. Le bras droit de François Ier. Il a protégé les chrétiens pendant quelques mois. Et à ce moment-là, il n'y avait plus des dizaines ou quelques centaines de chrétiens à La Rochelle. Il y avait des centaines, voire des milliers de chrétiens. Et c'est le 10 mai 1552 que La Rochelle a commencé à devenir une ville protestante. Et quand je dis protestante, on peut lire les prédications de cette époque. Chers amis, c'était des fidèles, des vrais croyants. Et tout ça, ça s'est passé comment? Par trois hommes qui, comme l'apôtre Paul, qui disait « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances ». Ces trois hommes, ils avaient un message. Ils avaient quelque chose à donner. Le salut en Jésus. Mais si on prêche le salut, voilà la tête. Si on annonce la bonne nouvelle, on va nous brûler vif. Et eux, ils avaient accepté avec joie leur souffrance pour amener le message de Jésus de point A jusqu'au point B. Et vous savez, chers amis, il y a des centaines, voire des milliers de gens que j'aimerais parler quand on va au ciel. Mais moi, je veux parler avec ces trois hommes-là. Ah, dis-moi, comment ça s'est passé? Après, on est au pied de Jésus après 10 millions d'années, ou je ne sais pas quoi, mais quand même, moi, j'ai envie à discuter avec ces trois hommes-là. Ah, explique-moi comment ça s'est passé. Parce que là, chers amis, là, on a trois Français. Trois co-citoyens, trois frères, par nationalité et par héritage de Christ, qui ont dit, peu importe la vie, peu importe la souffrance, on va prendre la joie, même si ça nous coûte la vie. Parce qu'il faut, amener le message de Jésus de point A jusqu'au point B. Et alors, aujourd'hui, moi je vous demande, êtes-vous prêt d'amener le message de point A jusqu'au point B avec la souffrance, hein? Vous imaginez les jeunes si demain au collège, au lycée, à l'université, vous dites devant vos amis, naturellement, moi je ne parle pas de quelque chose, vous arrivez à l'école avec un t-shirt qui dit « Jésus sauve et demande-moi », derrière c'est « demande-moi hein. ». Non, rien, mais naturellement, alors t'as fait quoi hier? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé, j'ai mangé. Ouais, plutôt ça. Hein. Non, je suis allé à l'église. Ah bon? Mais c'est quoi ça? T'es dans une secte? On s'en doutait pas, hein. T'es quand même un peu bizarre. On est prêt? On est prêt à dire aux collègues de travail, alors, comment ça s'est passé le week-end? Ben, Bordeaux a gagné et je suis allé à l'église. Ou, bon, et je sais, hein, ça fait un petit moment, on peut se préparer. Mais Noël prochain, et on est autour de la table, et je suis le seul chrétien, ou c'est ma famille qui est vraiment le seul qui est engagé au Christ. Et là, on va prendre le repas de Noël avec tous les autres non-chrétiens. Et on se tourne vers papa, on dit, je peux prier s'il te plaît? Quoi? Prier pour quoi? Papa, on va manger. Donc, j'ai envie à prier. L'apôtre Paul, il a dit que son cœur était vraiment cassé plusieurs fois. Mais vous savez aussi, Il y a des indices dans la Bible que l'apôtre Paul a été aussi insulté. Et c'était grave. Hein? Il y avait des choses qui nous disent que sûrement l'apôtre Paul a été insulté à cause de sa taille. Aussi à cause du visage. Hein? Mais vous imaginez, il ne faut pas écouter Paul parce qu'il est moche. Bon, et même là, ce qui est vraiment horrible, il y avait une fois où Paul, il parlait de quelque part, il donnait l'idée qu'ils avaient même insulté sa façon à parler. Donc, ça c'est terrible. Bon, si je suis moche, mais je peux bien parler, bon, déjà j'ai ça, hein, ou si je suis très très beau et je parle très mal, mais quand même, je suis beau. Mais Paul, il était attaqué les deux côtés, il n'avait rien. Terrible ce qui s'est passé là. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Et alors ? Moi, je vous promets, aujourd'hui, dans notre époque, vous allez prendre une position pour Jésus, vous allez annoncer la bonne nouvelle, il y aura forcément au moins une toute petite souffrance, voire même beaucoup, hein, ça dépend. Mais aujourd'hui, les gens sont de plus en plus hostiles contre l'Évangile. Et donc, il est sûr et certain, si vous vous dites aujourd'hui, ah, voilà, Paul, il a fait ça. Dieu, il m'appelle aussi à faire pareil, d'annoncer l'Évangile, de prêcher, d'être un témoin. Voilà, je vous promets, il y aura la souffrance dans votre vie. Et même quand vous n'êtes pas persécuté par d'autres, il y a la souffrance simplement par les circonstances de la vie. Une maladie, quelque chose qui ne va pas, une pression par le travail, d'autres choses. Êtes-vous prêt à prendre cette souffrance comme ceux qui vous aident d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Je termine simplement avec un tout petit passage. Je vous demande quand même à trouver Hébreux chapitre 10. Parce qu'ici, dans Hébreux chapitre 10, on a quand même un très bon exemple de d'autres personnes qui ont suivi ce modèle de Paul. Hébreux chapitre 10, et là on va voir le verset 34. Et même là, verset 32, ça dit, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Donc, ces chrétiens-là, quand ils sont devenus chrétiens, la vie, ça chauffait. Hein. Il y avait la persécution des Romains, il y avait... comme je vous ai dit, j'aime beaucoup l'histoire. Il y a une histoire qui est horrible, juste à imaginer. L'empereur Néron, une fois pour faire son anniversaire, il avait pris quelques centaines de chrétiens, toujours en vie. Hein. Il avait emballé le cœur de ces chrétiens par la peau des animaux. Il avait mis ensuite un espace de produit, j'oublie exactement qu'est-ce que c'est, mais c'est quelque chose qui brûle. Et là, il avait mis ces chrétiens sur les poteaux. Il a allumé chaque cœur. Vous donner la lumière dans un grand jardin pour son anniversaire. C'est ça que ça parle là. C'est pas simplement le fait qu'il s'est moqué des chrétiens, ils perdaient sans cesse leur vie. Et qu'est-ce qu'il dit là? Verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait certains chrétiens qui étaient, dès qu'on disait qu'on est chrétien, souvent on était mis en prison. Et donc là, il y avait ces chrétiens qui étaient dans l'église, dans les lieux cachés, et ils avaient beaucoup de compassion pour les frères et les sœurs en prison. Mais qu'est-ce qui se passe quand on va aux prisons pour visiter les frères et les sœurs? On nous demande une question. Es-tu chrétien aussi? Oui. Ah ben, vas-y, vous entrez là aussi. Ils avaient énormément de compassion pour ces chrétiens, donc ils ont décidé d'y aller pour les voir. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Ça veut dire que quand ils sont partis pour visiter ces chrétiens, dès qu'ils étaient identifiés eux-mêmes comme chrétiens, les autres avaient le droit d'entrer dans la maison pour prendre tout ce qu'il faut. Vous imaginez aujourd'hui, si on va à l'église et il faut dire au préfet ou il faut dire au commissariat, je suis chrétien, je vais à l'église tous les dimanches. Et là, le préfet, il dit, ok, d'accord. À ce moment-là, quand vous êtes à l'église, je donne le droit aux voisins autour de vous de tout prendre de votre maison. Ça veut dire, quand je suis à l'église, il y a un voisin qui est en train de prendre mon ordinateur, ma voiture, mes vêtements, ma télé, tout. Alors, à ce moment-là, il y aura combien de gens dans l'église? Bon, déjà, il faut se poser la question, est-ce que le pasteur va être là? L'église se trouve dimanche prochain chez moi, dans ma maison. Hein. Vous venez de votre maison, mais moi, je reste dans ma maison. C'est compliqué. Et eux, ils avaient accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Quand ces trois hommes à La Rochelle ont donné leur vie, c'est triste, c'est grave. Oui, un peu, mais pas autant que ça. Hein. Parce que dès que celui qui était sur le poteau donnait sa vie, il est allé où? Au ciel. Ce n'est pas un sujet de tristesse. Il a donné sa vie parce qu'il savait qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. Il y a le paradis, la présence de Jésus et une vie éternelle. Donc, ce matin, moi, je vous demande, êtes-vous prêt à donner votre vie comme ça? Je ne parle pas de feu, de couper la tête. Je parle du fait que quelqu'un peut se moquer de vous. Je parle du fait que Dieu peut vous demander d'être missionnaire en Chine, ou à Bordeaux, ou à Paris. Et alors, est-ce que vous attendez les choses qui sont meilleures pour faire ce travail pour Dieu, qui peut coûter un peu, mais qui est quand même une grande source de joie? Prions. Seigneur, on te remercie que tu nous donnes encore ce privilège de voir ta parole. On prie, Père, que tu nous donnes ensuite le courage, la motivation, Père, les ressources, l'énergie, Père, pour accomplir ta volonté. On te remercie, Père, pour ces exemples, l'exemple à La Rochelle, l'exemple de l'apôtre Paul. Et donc, on te remercie, Père, aussi que tu es fidèle dans toutes circonstances. Amen.